L'objectif de cette vidéo est de présenter quelques notions élémentaires d'architecture logicielle. En particulier, je vais commencer par évoquer un certain nombre de principes qui doivent vous guider dans la conception d'un logiciel. Je présenterai ensuite un petit catalogue de motifs classiques et je terminerai en montrant comment plusieurs motifs se composent pour construire une application réaliste. Avant les principes proprement dits, il me faut reconnaître que définir l'architecture n'est pas quelque chose de très simple. Il est au fond plus simple de définir l'architecture matérielle d'un ordinateur que l'architecture d'un logiciel, pour un certain nombre de raisons qui tiennent à la nature même du logiciel. Le logiciel est invisible, donc vous voyez bien que là où en architecture matérielle, vous pouvez encore vous reposer sur des considérations géométriques, ce sont des choses qui n'ont pas de sens lorsque vous vous intéressez au logiciel. Une autre chose qui distingue beaucoup le logiciel du matériel, c'est que vous avez des modifications très fréquentes du logiciel, là où évidemment, pour des raisons bassement manufacturières, l'architecture matérielle évolue plus lentement. Et enfin, vous verrez qu'en fonction des langages, mais aussi des projets, il n'est pas toujours évident de définir la notion d'élément unitaire, c'est-à-dire de plus petite entité manipulée par votre programme. Si vous avez un programme de 100 lignes, il semble clair que l'unité élémentaire, ça va être une fonction. Si vous avez un logiciel de plusieurs millions de lignes, il n'est même pas clair que la classe va être l'élément unitaire auquel vous allez vous intéresser. Vous allez sans doute avoir des agrégats de classes, des paquets, des choses un peu plus compliquées que ça. Pour toutes ces raisons, il est relativement difficile de donner une définition précise de ce qu'est l'architecture logicielle. Et donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est ce que font, à mon sens, les meilleurs ouvrages sur le domaine, c'est donner un certain nombre d'exemples d'architecture dont vous pouvez vous inspirer lorsque vous concevez vos propres logiciels. Mais avant ça, je donne quelques principes qui peuvent vous guider. Un principe qu'on a déjà vu, diviser pour régner. Évidemment, rien de spécifique au développement logiciel. Quand vous avez un gros problème devant vous, la première chose que vous faites, c'est que vous le découpez en un certain nombre de petits sous-problèmes. Le principe auquel je suis probablement le plus attaché en termes de développement logiciel, c'est de se dire que ce qui prime, c'est que la maintenance du logiciel soit facile. Ce n'est pas nécessairement la première chose qui vous vient à l'idée, parce que dans le cadre de vos études, vous avez plutôt tendance à écrire le logiciel une fois, à le rendre à l'enseignant pour évaluation et à ne plus le revoir. La vérité, c'est que dans le monde professionnel, le logiciel est plus souvent relu, réécrit, modifié qu'écrit. D'où l'importance de favoriser la maintenance. Un autre principe auquel je suis assez sensible, c'est le principe de minimisation des concepts. Comme j'ai dit, je vais donner un catalogue présentant un certain nombre de motifs architecturaux classiques. Il n'est pas toujours pertinent, lorsque vous architecturez un gros logiciel, d'essayer d'être le plus intelligent à chaque point du logiciel. Vous pouvez vous trouver dans une situation où vous rendrez la maintenance plus facile si, au lieu d'utiliser le motif exactement le plus performant à chaque endroit, vous minimisez le nombre de concepts, le nombre de motifs que vous mettez en jeu. Ça abaisse la barre d'entrée dans la compréhension de votre logiciel et donc ça favorise la maintenance. Ça veut dire aussi que dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, et plus généralement dans tout ce que vous pourrez lire sur l'architecture logicielle, c'est essentiellement un jeu de compromis entre des principes qui sont possiblement contradictoires. Une chose à laquelle on essaye de vous sensibiliser beaucoup dans le cadre de ce module, c'est d'éviter à tout prix la duplication. Pourquoi ? Là encore, c'est au fond une conséquence de mes considérations sur la maintenance. Si vous avez une même information qui est à 5 endroits dans votre logiciel, l'expérience prouve que la première fois, vous allez modifier les 5 endroits, la deuxième fois, vous en modifierez 3 ou 4, et puis la troisième fois, vous en modifierez qu'un ou deux. Et donc, vous allez avoir des comportements incohérents, des bugs qui vont se manifester de façon extrêmement bizarre et qui vont prendre un temps fou à trouver et à résoudre. Donc, évitez à tout prix la duplication. Et enfin, couplage faible, c'est probablement la notion la moins importante de ce transparent, mais je tenais néanmoins à l'évoquer. L'idée du couplage faible, c'est que Parfois, vous allez être tenté d'écrire des choses très génériques. D'abord, posez-vous la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle ou si vous allez passer un temps considérable à développer quelque chose de générique alors que quelque chose de spécialisé à votre cas suffirait. Et la notion du couplage faible, c'est un peu un mirage lié à la volonté parfois d'être plus générique. Des composants, des classes sont fortement couplées si elles sont interdépendantes, c'est-à-dire que si elles ne peuvent pas s'utiliser l'une sans l'autre. Bon. Donc, c'est une notion intéressante à avoir en tête parce que ça veut dire que parfois vous avez l'impression de faire quelque chose de très générique et en fait, vos classes que vous pensez très génériques, elles ne fonctionnent que l'une à côté de l'autre et pas si vous les déployez dans un autre contexte. Cela étant dit, comme annoncé, maintenant un catalogue de quelques motifs classiques, ne serait-ce que pour vous donner des éléments de terminologie. Forme d'architecture la plus simple, c'est probablement l'architecture en couches que vous avez sur la partie gauche de ce transparent. Donc l'idée, c'est que vous allez regrouper, typiquement vos classes en différentes couches avec deux idées principales. La première, c'est que les classes à l'intérieur d'une couche communiquent librement entre elles, d'une certaine manière, et ont assez peu de contact avec les classes des autres couches. Et idéalement, ma couche intermédiaire, ici, aura des contacts limités, essentiellement avec haute et basse, mais ma couche basse n'aura de contacts qu'avec intermédiaire, et ma couche haute également qu'avec intermédiaire. Et l'autre principe, c'est que lorsque vous vous déplacez vers le haut, vous montez en abstraction. Donc dit autrement, vous aurez par exemple dans les couches basses des choses très liées au matériel, au driver, à l'interaction avec des éléments physiques. Vous aurez une couche intermédiaire qui vous donnera une abstraction au-dessus de ce matériel et vous aurez le code spécifique à votre application dans la couche haute. J'ai mis sur un même transparent une architecture en silo. C'est un petit peu la même idée que les couches. La différence essentielle, c'est que quand vous parlez d'architecture en silo, en général, vous laissez de côté cette idée d'abstraction croissante. Et avec les silos, vous êtes plus libre que chacun communique avec les autres. C'est plutôt une manière de regrouper un ensemble de classes qui vont fortement interagir entre elles et peu interagir avec les classes des autres silos. Autre grand classique simple d'architecture logicielle, ce qu'on appelle les pipelines. C'est simplissime. Vous avez des données en entrée, un traitement qui vous donne, disons, des données primes. Ces données primes, vous les passez à un autre traitement qui va vous calculer des données secondes. C'est évidemment une architecture d'autant plus simple que c'est au fond, tout bêtement, la composition de fonctions que vous connaissez depuis très longtemps. Pourquoi il est néanmoins intéressant de repérer cette architecture? D'abord à des fins de communication entre développeurs. Et puis, vous voyez que pendant que mon premier traitement traite un premier paquet de données, je peux attendre l'arrivée de données additionnelles, de telle sorte que lorsque mon premier paquet de données passera au second traitement, je pourrai simultanément appliquer le premier traitement à un nouveau paquet de données. D'accord. Donc vous voyez se dessiner un type d'architecture qui est évidemment adapté au flux, c'est-à-dire au fait que les données arrivent petit à petit, et donc à tout ce qui est flux, type flux vidéo ou flux audio. D'accord. Vous pouvez imaginer vos traitements ici, ce sont des effets spéciaux que vous appliquez successivement à des images qui arrivent progressivement. Donc vous voyez que ça, encore une fois, très simple, composition de fonctions, mais ce que vous voyez derrière, c'est une forme de parallélisation et la capacité à traiter les données en flux, c'est-à-dire de ne pas avoir à attendre que toutes les données soient disponibles avant de commencer à travailler. Autre grand classique de l'architecture logicielle, l'architecture dite MVC, pour Model View Controller, qui est l'architecture des interfaces graphiques. Quelle que soit l'interface graphique qui vous intéresse. D'accord, une application sur le mobile, une application web, une application bureau, entre guillemets, classique, le modèle MVC est intéressant à connaître, quel que soit le type d'interface. L'idée centrale du MVC, c'est un principe que j'ai déjà évoqué, je pense, dans une vidéo précédente, c'est « separation of concerns ». C'est-à-dire qu'on va découper en petits morceaux, mais pas arbitrairement, on va découper en séparant les concerns, donc les thèmes. On va voir sur le transparent précédent, évidemment, ces concerns vont être modèle, view et contrôleur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez découper votre interface en trois morceaux. Modèle, vue et contrôleur. Le modèle, ça va être vos données, tout simplement. La vue, ça va être le composant visuel de votre interface, comme son nom l'indique. Et le contrôleur, ça va être l'orchestrateur qui va être chargé d'organiser les interactions et les mises à jour. Donc, si je raffine un peu ça, voilà le type de communication que vous allez avoir entre vos trois composants. Le modèle va se charger, lorsque les données changent, de prévenir la vue pour que l'artefact graphique se mette à jour. Et le contrôleur, comme je vous l'ai dit, joue un peu le rôle de chef d'orchestre. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un clic sur la vue qui doit modifier les données, la vue va notifier le contrôleur qui va se charger d'aller modifier, le cas échéant, le modèle. Pourquoi est-ce que c'est une architecture intéressante? Alors d'abord, par application de separation of concerns, mais même en prenant un exemple très précis, vous allez voir que vous pouvez réutiliser certaines parties de votre architecture dans plusieurs contextes. Si je pense par exemple à un tableur type Excel, dans mon modèle, je vais avoir les données de mon tableau. Ici, une liste de listes Python. Ma vue, ça peut être la vue tabulaire, comme ici. Mais ça peut également être un graphique. Donc vous voyez qu'il y a separation of concerns, mais il y a aussi derrière la possibilité de réutiliser, parce que dans cet exemple du tableur, je vais avoir deux vues différentes, une vue tabulaire et une vue graphique, mais bien entendu, par application d'un autre concept de non-duplication, je ne vais avoir qu'un seul modèle. Avant-dernier modèle classico-classique d'architecture logicielle, le modèle client-serveur, auquel vous êtes confronté très régulièrement parce que c'est le modèle des sites web. Deux caractéristiques essentielles. C'est un modèle dans lequel les données sont centralisées. Et c'est un modèle dit à n tiers. Alors, attention, dans ce cadre-là, tiers est à prendre comme tierce partie, pas la fraction 1 sur 3. Donc, ça n'est pas stupide, c'est pas redondant de parler d'architecture 3 tiers, et ça n'est pas stupide de parler d'architecture 2 ou 4 tiers. Voilà à quoi ça ressemble dans le cadre des sites web. Vous avez un client sur votre machine qui va être typiquement un navigateur web, qui va envoyer une requête au serveur web, qui lui-même va aller chercher des données dans une base de données, va collationner les données qu'il reçoit de la base de données pour envoyer une réponse qui sera affichée sur votre navigateur. Donc vous avez ces trois tiers, ici client, typiquement navigateur, serveur et base de données. Dernier motif, en partie parce qu'il est à la mode, cloud computing. En première approximation, il est plus que raisonnable de considérer que le cloud computing, c'est juste une forme particulière de client-serveur. En première approximation, il est très raisonnable de penser que la grande idée, assez géniale du reste, du cloud computing, et de ce qu'on appelle l'élastique computing, ça va être la capacité, plutôt que d'avoir un nombre de serveurs fixes, comme sur mon transparent précédent, ça va être la capacité à mobiliser d'autant plus de ressources que vous avez de clients qui se connectent, et à ajuster en fonction de la demande le nombre de ressources que vous mobilisez du côté du serveur et de la base de données. Mais essentiellement, c'est la même chose que le modèle client-serveur. Je termine en montrant un exemple de composition, simplement pour, au risque d'enfoncer une porte ouverte, montrer comment les motifs précédents ne vivent pas en isolation, mais se combinent. Donc, imaginons que j'ai une application à écrire qui me permette de gérer les mails et les agendas, qui me permette de faire de la prise automatique de rendez-vous en cherchant les trous dans les emplois du temps des uns et des autres, et qui me permette de retrouver par recherche textuelle mes mails et mes rendez-vous. Et en plus de tout ça, je souhaite pouvoir accéder à cette application par le biais d'un site web. Une manière d'architecturer cette application, c'est la composition des motifs suivants. Je vais avoir une architecture en couches. Dans mes couches basses, je vais stocker mes données de manière brute, mes mails, mes rendez-vous. Je vais avoir une couche intermédiaire, ou plutôt je suis passé directement à la couche haute, qui va fournir les fonctionnalités intelligentes. D'accord ? Recherche textuelle sur mes rendez-vous et mes mails, et puis prise automatique de rendez-vous. Vous voyez que là, ça a un sens de distinguer entre les deux couches. Ici, je stocke brutalement des données sans les traiter. Ici, je fais preuve d'un peu d'intelligence pour rechercher, suggérer automatiquement des heures de rendez-vous. Au-delà de ça, je vais avoir une architecture, enfin un deuxième motif plutôt, dans au sein de cette architecture, qui va être une architecture 3/3 client-serveur. Je vais permettre à l'utilisateur d'utiliser le navigateur pour accéder à mon application, et je vais avoir un serveur web et une base de données. Et enfin, évidemment, d'une certaine manière, sur le navigateur, ce que je vais avoir, c'est une interface graphique. Pour le développement de cette interface graphique, je vais appliquer le motif modèle view controller.